Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Mathieu Burgalassi et on boit du thé, du café, parce qu'apparemment on est en novembre en fait.
Ouais, on est en mai à Paris, mais pas vraiment en fait.
Donc on a besoin de boissons chaudes. Vraiment.
Bienvenue à Paris Mathieu d'ailleurs.
Merci beaucoup, c'est très désagréable.
C'est un bel accueil.
Pour te présenter à nos auditeuristes qui ne te connaissent peut-être pas, nous avons fait un acrostiche, comme d'habitude, et c'est parti. M comme Marine Le Pen, ça peut sembler bizarre comme entrée en matière, oui, mais c'est parce qu'il est spécialiste de l'extrême droite. Enfin, en analyse, hein, pas en mode fan.
A comme anthropologie et sciences politiques, les deux spécialités qu'il a étudiées à l'université.
T comme toujours d'accord, on partage énormément de valeurs avec lui, c'est ce qui nous a donné envie de l'inviter.
H comme humain, il analyse nos comportements face aux catastrophes naturelles et guerres avec un regard acéré et militant.
I comme immersion, il a passé 4 ans à enquêter dans les mouvements survivalistes et il en a créé un livre, La peur et la haine, sorti en 2021.
E comme engagé, il a, comme nous, de grosses convictions, de gros gauchos, on peut le dire.
Ouais,
on peut le dire, gauchos, on assume. U comme ubuesque, ça n'a rien à voir avec le reste, mais son prénom, il est trop long et on trouve que c'était un joli mot.
Merci, ouais, ça va, ça marche.
C'est pas mal, franchement.
Ouais, non, mais bien, franchement, je me suis dit comment vous allez faire.
Ouais, on s'est dit, oh là là,
c'est
réussi. Non, il est long.
Franchement, c'est réussi.
On s'est donné, mais on a voulu voilà, finir sur une petite touche poétique. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous aviez cette petite conversation en off, alors je le révèle à nos auditeuristes, où on se demandait c'est quoi être anthropologue. Et Justine avait peur, elle disait peut-être que je vais passer pour une idiote ou quoi,
mais
en vrai on est d'accord que pas du tout, personne ne sait vraiment ce que c'est anthropologue.
Ah non, mais moi je savais pas.
Ni même
que...
toi.
Ah non, bah, non, mais c'est vrai, quand je me suis inscrit en fait à la fac, moi j'avais pas prévu de faire des études de base. J'ai eu mon bac un peu par accident et après je me suis inscrit à la fac parce que c'était gratuit quoi.
T'as trébuché et hop t'as signé.
Non mais en vrai je voulais accompagner, j'étais très amoureux, je voulais accompagner la personne dont j'étais amoureux qui partait vivre dans les grandes villes, donc je me suis inscrit aussi pour avoir la bourse et je me suis mis en sociologie parce que ça j'avais une vague idée, il fallait que je prenne une mineure et il y avait anthropologie et je savais pas ce que ça voulait dire. Et ça sonnait un peu, je sais pas, exotique et mystérieux dans ma tête.
Pour moi, c'est genre l'étude des comportements humains, c'est ça?
Bah, oh, c'est sociologue, ça, non?
Ouais,
bah,
j'avoue.
C'est l'étude des autres cultures. En fait, pour moi, l'anthropologie, c'est une méthode d'enquête.
Okay.
C'est le temps qu'on va passer dans une culture qui n'est pas la nôtre pour essayer de la comprendre sans la regarder à distance. Mmh. Moi, j'aime bien dire sans regarder les gens comme des canards qui baisent. On essaye de voir les gens comme des humains. Et du coup, pour ça, en fait, il faut partager, passer du temps avec eux. Là où un journaliste, il va faire les choses très rapidement, il va passer quelques semaines avec des fixeurs qui vont lui dire précisément « va voir ça, c'est intéressant ». L'anthropologue, il se dit « je vais essayer de me perdre dans la culture des gens ».
D'où l'immersion.
Exactement. On va passer... Moi, j'ai passé 4 ans en immersion dans les mouvements survivalistes. Donc 4 ans où j'étais tout le temps avec les gens, où je faisais tout ce qu'ils faisaient et où j'essayais de suspendre mon jugement pour vivre leur quotidien et à partir de là, en fait, me défaire de tout ce que je pouvais avoir comme idée préconçue pour arriver à quelque chose qui soit un autre point de vue qui sera toujours mon point de vue à moi, qui sera jamais le point de vue exact des gens, mais qui sera quand même un point de vue qui va ouvrir en tout cas un champ de perspective différent.
Et quand t'enquêtes, t'es pas genre sous couverture comme les flics à la télé là, qui font semblant d'être des junkies. Enfin, tu t'enquêtes en tant que Mathieu, journaliste, enfin anthropologue, où ils savent qui tu es, les gens. Là, typiquement dans les milieux survivalistes, ils savaient qui t'étais ou t'as fait semblant d'avoir un bunker chez toi et tout.
Alors, un gros cliché, c'est un peu ambigu. En fait, il y a une partie du travail que tu fais en immersion. Donc tu arrives, je suis Mathieu, Burgalassi, anthropologue. Je viens faire une enquête, poser des questions. Donc dans ce cas-là, je me présente, j'explique pourquoi je suis là. Et ces gens-là, en général, je ne peux pas leur dire exactement la raison de mon enquête. Je ne peux pas leur dire que j'enquête sur la question politique parce que si je pose vraiment le sujet de l'enquête, les gens, ils vont tout de suite le fuir.
Donc moi, et ils vont agir différemment et
ça va devenir la mascarade. Je vais avoir droit en fait, à une façade. Quoi. J'aurai plus jamais accès aux infos. Donc moi, ma méthode, c'était beaucoup de... en fait, c'était de dire ce que je faisais mais en utilisant des mots inutilement compliqués pour que les gens disent ah oui oui comme s'ils savaient et que personne comprenne.
Sûr que j'aurais fait ah oui oui d'accord.
Moi je disais je travaille sur les eschatologies séculières.
Ok, ah oui oui, bah, génial.
Oui, ah ouais, ça je connais, personne sait ce que ça veut dire. En fait ça veut dire la fin du monde sans la religion.
D'accord.
Donc du coup ça collait un petit peu, c'était la vérité ouais, sans être...
Oui, si tu vas sur Google tu dis bon ok d'accord.
Et, et sinon une part de l'enquête ben, c'est de l'infiltration. Et là par contre on ne dit pas ce qu'on fait. On ne dit pas pourquoi on est là, on dit que moi je suis Mathieu, je suis survivaliste.
Ah,
oh là
tu
là,
fais semblant là.
Ah ouais, tu fais semblant dedans, et là c'est très compliqué, c'est très dangereux, mm-hmm. et ça se passe très mal ce que je raconte dans mon bouquin. Moi j'ai fini par me faire kidnapper et torturer quoi, aux États-Unis lors d'un stage de survie qui a complètement dégénéré, et qui était un de ces stages-là en infiltration, et du coup c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout, mais qui était nécessaire dans le type d'enquête que je faisais parce que c'est un milieu tellement secret, tellement dangereux, tellement violent qu'on ne peut pas se permettre d'être toujours à découvert.
Donc ça ne t'a pas motivé à être survivaliste en tout cas ?
Ah non, tout l'inverse.
Et à la base, tu as fait cette enquête en France ou aux États-Unis ?
J'ai commencé en France sur les survivalistes français et après j'ai pu aller faire une comparaison avec les États-Unis en étant persuadé qu'aux États-Unis ce serait pire qu'en France. Mm-hmm. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'était la même chose. Que j'avais affaire à peu près au même type de gens, c'est-à-dire des gens obsédés par l'idée que demain va y avoir une guerre civile, que cette guerre civile, ce sera entre les Blancs d'un côté et de l'autre, les Arabes, les Noirs, les communautés immigrées.
Ah, c'est ça, le mouvement survivaliste ?
Absolument, à 100%.
Ah, c'est... Il y a un...
Alors qu'un côté raciste, donc, c'est un genre, la fin du monde. Enfin, on a l'impression que c'est les catastrophes naturelles, plus...
Ah ouais, moi, pour moi, c'était... il va se passer, ouais, soit une catastrophe naturelle, soit l'effondrement de la civilisation. Enfin, genre l'effondrement,
mais les banques qui disent que ça va être de la faute des Noirs et des Arabes, du coup.
Ah, d'accord.
En fait, au départ, les gens croient toujours que c'est la fin du monde qui intéresse les survivalistes. Mais moi, en 4 ans de terrain, des survivalistes qui préparent la fin du monde, j'en ai jamais rencontré un seul. Ce que j'ai rencontré, c'était que des gens qui se préparaient à une guerre civile.
Ah ouais.
Donc, des gens qui se disaient, en fait... Demain, il va y avoir une crise. Ça peut être une crise économique, une crise écologique, une crise sanitaire comme le Covid. N'importe quel type de crise, pour eux, la crise, en fait, c'est pas du tout important.
Ouais.
Ce qui compte, c'est que la crise, elle sera les tellement forte, exactement, qu'elle va atteindre l'État et que l'État va s'effondrer. C'est ça, l'effondrement. C'est l'État qui se casse la gueule. La crise est différente de l'effondrement. C'est pour ça que les gens confondent souvent. Et quand l'État s'effondre, le pari des survivalistes, c'est de dire l'homme va devenir un loup pour l'homme. Du jour au lendemain, il y aura des émeutes, il y aura des pillages. Le gentil voisin qui m'aidait parfois à monter les courses, eh ben, quand sa femme sera malade, que ses enfants auront faim et qu'il n'y aura plus rien dans les placards, il va prendre une hache, défoncer ma porte, rentrer chez moi et piquer ce que j'ai dans les placards. Mmh. Et donc, en fait, le survivalisme, c'est un mouvement qui est fondamentalement violent. Oui, c'est des mecs qui stockent des boîtes de conserve, oui, c'est des gars qui stockent des médicaments, mais en fait, c'est surtout des gens qui s'entraînent au combat, s'entraînent au tir, stockent des armes, des munitions, font des stages de survie paramilitaire.
C'est que des hommes.
Quasiment.
Et c'est des gens d'extrême droite ou
pas ? Non, pas du tout.
Non, pas forcément.
Bah, c'est là, en fait, c'est le gros point central de mon livre, c'est d'expliquer que c'est des gens racistes, c'est des gens violents. C'est des gens qui commettent des attentats meurtriers sur des principes d'une croyance raciste. Mais tout ça, ça ne leur vient pas que de l'extrême droite.
Okay.
Parce que leur croyance, elle est fabriquée par autre chose. Elle est fabriquée par un discours qui est un discours dominant aujourd'hui, un discours politique qui est le discours de l'insécurité, qui est un discours qu'on entend partout.
Oui, oui.
C'est pas un discours complotiste, ce discours-là. C'est le discours de Macron qui était à la télé en octobre sur France 2 et qui disait dans une interview « On ne peut pas nier qu'on vit dans un pays de plus en plus violent ». Quand le survivaliste, il entend ça, il se dit « Ah ouais, c'est vrai, franchement, la France est de pire en pire, il y a de plus en plus d'insécurité. » Et ce discours de l'insécurité, c'était le discours de campagne de Zemmour, le discours de campagne de Le Pen, de Pécresse.
Et on sait qui vise à droite, enfin, milieu, voilà, du milieu jusqu'à l'extrême droite, en gros.
Et on sait ce discours vise dans l'insécurité.
Ben, exactement, parce qu'en plus, ce discours de l'insécurité... Déjà, première chose, le discours de l'insécurité, il est faux. Il faut quand même le redire aux gens parce que les gens ne le savent pas. On ne vit pas dans un pays de plus en plus dangereux. Si on regarde les statistiques, par exemple, on prend la statistique des homicides. Entre 2015 et 2020, on est sur quoi 400 homicides par an pour un pays... Non, 800 homicides, pardon. 800 homicides par an pour un pays de 67 millions d'habitants. Ce n'est pas du tout un score élevé. On est largement dans la moyenne européenne. Et si on regarde, en 1995, on était sur 1400 homicides par an.
Donc ça a baissé.
Voilà, ça a baissé de 500 homicides par an. C'est quand même non négligeable. Et ça, moi, je le sais parce que je suis chercheur, que j'ai lu les données de l'Inserm, que j'ai lu les données d'Interstat. Mais le survivaliste, il n'en sait rien. Il voit Darmanin à la télé qui parle d'ensauvagement de la France. Il se dit « Ah oui, on vit dans un pays de plus en plus violent. » Darmanin, il l'a dit. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il s'achète un fusil, il s'achète des balles, il se prépare à la guerre. Et comment ça termine ? Ça se termine avec des mecs comme Frédéric Limolle qui a assassiné 3 gendarmes dans le Puy-de-Dôme en 2020. Donc il y a vraiment une dérive ultra violente.
Elle vient de là, la violence, en fait. L'augmentation de la violence, finalement, elle est chez eux, quoi.
Elle vient des discours sécuritaires. Pour moi, ce que mon travail y prouve, c'est que le discours sécuritaire, il produit un truc chez les gens. C'est pas un discours nul, c'est un discours qui se débarrasse totalement de la question statistique, qui se débarrasse de la, on va dire, de la réalité observable, qui ne fonctionne que sur du ressenti. D'ailleurs, Darmanin, ça, il l'avait dit ouvertement, une fois, il était sur BFM, et on lui pose la question comme ça des statistiques, on lui dit, mais la statistique montre que l'insécurité n'augmente pas, et il avait dit, je me moque du chiffre des sociologues, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing.
Oui, d'accord. C'est très clair ce que ça veut dire.
C'est très clair. C'est clair. Du populisme pur et dur. Ouais. Et on joue comme ça sur la peur des gens, en la nourrissant en permanence. Mais le problème, c'est que la pensée sécuritaire, c'est une pensée qui est fondamentalement raciste, parce qu'on ne se contente pas de désigner une menace, on désigne toujours des responsables. Et les responsables, c'est des groupes à risque qui servent de figure au poussoir, en fait. Donc les immigrés, les musulmans, les personnes non blanches. Et moi, quand j'étais sur le terrain et que je demandais aux survivalistes qui est-ce qu'ils imaginaient en face du fusil, la réponse était toujours ces groupes-là.
Mmh, donc, systématique.
Systématique.
Que ce soit toujours. En France ou aux États-Unis.
Oui, et c'était d'autant plus intéressant que je voyais bien que la figure repoussoire du danger, elle est différente aux États-Unis qu'en France. Donc la réponse changeait. Aux États-Unis, c'était les Mexicains. Oui. En France, c'est les musulmans.
Oui.
Mais on voit que c'est la même logique sécuritaire.
Ouais.
Quoi.
Mmh, ouais. C'est l'envahisseur d'après eux, quoi.
Exactement.
Mais pour revenir juste au mouvement survivaliste, ça m'a fait penser à la série Canal L'effondrement des parasites. Je sais pas si tu avais vu cette série. C'est une série de genre 10 épisodes de 10 minutes, un truc comme ça, qui parle de l'effondrement. Et là, c'est vraiment ce que tu décrivais. Mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il y a un aspect survivaliste dans cette série. Enfin, cette notion justement de guerre civile, de racisme et
mais
tout.
Non, mais parce que justement, dans l'inconscient collectif, moi, c'est ce que je découvre là presque maintenant, dans l'inconscient collectif, le survivalisme, c'est pas du tout rattaché à du racisme ou quelque chose. Et au final,
ouais, moi,
la série, d'ailleurs, dans l'effondrement, ça me fait me dire qu'en fait, ils ont pas du tout pris cette notion en
considération.
Après, c'était pas le travail qu'ils ont voulu faire, tu vois, mais en fait, du coup, elle est pas très juste finalement.
Parce que c'est pas improbable de sentir qu'il peut y avoir un effondrement de la société qui va
tomber.
Non,
c'est pour
ça
que ça attire plein de gens dans ces communautés. Moi, au départ, j'arrive dans ces milieux aussi parce que ça m'intéresse. Parce que moi, j'étais étudiant, très précaire au départ. En fait, si tu veux, ça part d'une agression. Moi, un jour, je rentrais chez moi et je me suis fait attraper par un groupe de gars et ils m'ont tabassé et laissé pour mort. Après ça, moi, j'ai fait une dépression très, très violente. J'arrivais plus à sortir de chez moi, j'avais un stress post-traumatique. Quand j'étais dans les transports, j'avais l'impression qu'on allait m'agresser partout. Et j'avais hyper peur, mais j'avais pas les moyens de me payer la psy, sinon ça aurait été peut-être un peu mieux. Et je me suis dit, je savais pas quoi faire. Et là, il y a un gars qui m'a parlé du Krav Maga, un truc de self-défense. Mm-hmm. Et je me suis dit, ouais, vas-y, je vais essayer de faire ça, je vais apprendre à me défendre. Et par hasard, j'atterris dans un club de Krav Maga qui était géré par un survivaliste. Donc moi, je suis rentré là-dedans et on commence à me parler de prévoyance, on parle de la situation géopolitique, on me dit « Ah, mais regarde, il peut y avoir une crise économique et toi, tu vas te retrouver en galère. » Et moi, je suis étudiant à ce moment-là, je suis super précaire, je travaille en partie pour payer mes études, je suis vraiment en difficulté, tu vois, sociale, quoi. Et je me dis « Oui, c'est vrai que de la précarité à la misère, des fois, il n'y a qu'un pas à franchir et ça peut arriver très vite. » On l'a vu pendant le Covid avec les queues d'étudiants qui étaient devant les aides alimentaires. Et je me disais que ça pouvait me tomber dessus. Donc le survivalisme, ça me paraissait logique. Seulement le premier stage de survie où je suis allé, qu'est-ce qu'on m'a appris ? On m'a pas appris à faire des boîtes de conserve. On m'a appris à égorger des gens. On m'a expliqué comment et dans quel angle planter une lame de couteau dans la gorge de quelqu'un, comment tirer,
violence,
etc. Ouais, comment étrangler des gens. C'était tout le temps ça.
C'est pas survivre face à l'effondrement de la société, c'est survivre face aux autres.
Je trouve que ça, dans tous les films, alors j'en ai pas vu des tonnes, mais le peu de films que j'ai pu voir ou de séries sur le sujet, justement, d'effondrement, de qu'est-ce qu'on ferait, cette notion, elle est très peu abordée, finalement.
Parce que le problème, c'est que tous les gens qui ont parlé du survivalisme jusqu'à aujourd'hui étaient soit des survivalistes, soit des gens qui n'avaient jamais rencontré des survivalistes que superficiellement. C'est là l'intérêt de l'anthropologie, c'est 4 ans d'enquête. 4 ans
au
avec les gens, tout le
truc,
temps
quoi.
Avec eux. Moi, qu'est-ce que je peux dire après 4 ans ? J'ai passé 4 ans à m'entraîner à tuer des gens. J'ai fait que ça. J'ai fait que ça. On m'a appris à manipuler des armes, on m'a appris à étrangler, on m'a appris à égorger, on m'a appris vaguement 2-3 trucs de survie dans la nature, mais vraiment vaguement. Et c'est toutes les compétences que j'ai développées après 4 ans avec ces gens-là, c'est des compétences guerrières. Donc ça montre bien une réalité de ces mouvements-là. Et cette réalité, elle est logique parce qu'en fait, la représentation de ces gens, elle est fondamentalement individualiste. C'est l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, l'idée qu'on vit dans une société...
C'est la loi du plus fort.
Exactement. Si ça s'effondre, ce sera la loi du plus fort. Et ensuite, c'est une représentation qui est formé par notre par le discours politique dominant aujourd'hui. Et le discours politique dominant, si on le regarde objectivement, il est tourné sur l'insécurité, sur l'idée. C'est un cœur de campagne qui n'est plus jamais remis en question aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus en danger. La société est de plus en plus violente. Demain, si quelque chose se passe et que l'État s'effondre, dans cette société de plus en plus violente, on va s'en prendre à moi. Et il y a des responsables de cette insécurité qui sont en permanence désignés dans des discours politiques. Ça encore, Macron l'a dit dans un discours il n'y a pas si longtemps que ça. Il est allé à la télé dire « Je ne ferai jamais de lien existentiel entre l'immigration et la délinquance ». Puis il ajoute, mais il faut bien reconnaître que la majorité des faits de délinquance à Paris sont commis par des immigrés. Et tu te dis, mais attends, quand le président il dit ça, il désigne dans la population un sous-groupe en disant, ces gens-là, à tous les autres, il dit à tous les autres, regardez, ces gens-là, les immigrés, sont responsables de la violence, sont responsables du danger, c'est à cause d'eux qu'il y a. Et ça, le gars en face, il entend, le survivaliste, lui, il entend, ça rentre dans son logiciel. Son logiciel, c'est de se
c'est
dire
du
quoi ?
Bourrage de crâne, quoi.
Ben ouais, ça va se casser la gueule, ouais. Il va y avoir un problème. S'il y a un problème, il va y avoir des émeutes. Qui va faire les émeutes ? Ben, c'est ceux qui foutent
méchants,
la merde en ce moment,
méchants,
c'est les méchants. Qui c'est les méchants ? C'est
et
les
en
immigrés.
Attendant, on oublie bêtement que les plus gros délinquants, c'est eux-mêmes, quoi.
Ouais.
Les politiques.
Mais ce qu'il faut se demander surtout, c'est est-ce qu'on doit pas, tu vois, faire un lien existentiel pour le coup entre le discours de Macron qui dit les immigrés sont responsables de l'insécurité et 3 mois plus tard. William Mallet, qui vient à Paris, qui tue 3 personnes, en disant ensuite, pendant ses auditions, je voulais tuer des immigrés.
Oui.
Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire un lien entre un discours politique raciste et des attentats racistes ? Bah, ce que démontre mon travail, c'est qu'en tout cas, le discours politique raciste, il produit quelque chose chez les individus, une peur qui les pousse à s'armer et à basculer dans la haine de l'autre. Donc, à un moment donné, il y a quand même un certain nombre de connexions, voire de liens causaux, qui peuvent, je trouve, démontrer qu'il y a une responsabilité du discours politique dans l'augmentation de la violence raciste.
Mais qui te paye quand tu fais cette enquête ? Quand t'es anthropologue, qui vous paye ? Qui vous dit, allez-y, faites des études et tout ? C'est l'État ?
Techniquement, c'est l'État, mais on est financé sur des appels à projets.
Okay.
Donc moi, j'ai fait un appel à projet il y a 5 ans de ça, pour avoir ce qu'on appelle un contrat doctoral. Donc c'est un truc horrible à avoir, où on doit passer plein de commissions, et c'est très, 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 très dur et très chiant à obtenir. Et on fait une proposition de sujet. Et moi, je suis arrivé en proposant le survivalisme et d'extrême droite. C'était ça que je pensais au départ. Et c'est des gens racistes parce que l'extrême droite produit du racisme.
Okay.
Je suis sorti 4 ans plus tard en ayant compris que c'est pas l'extrême droite qui produit le racisme. La montée de l'extrême droite, elle est conséquente de la montée de la pensée raciste dans notre société. Ce qui produit aujourd'hui le racisme, c'est la normalisation et la banalisation de toutes les idéologies discriminantes et le fait qu'elles puissent aujourd'hui s'exprimer de manière totalement, impunie dans toute la société dans laquelle on vit.
Bah, c'est ce qu'on essaye de dire très régulièrement, mais ça ne rentre pas. Enfin, c'est-à-dire que les gens, pour l'instant, refusent énormément d'entendre ça. C'est ce qui s'est passé avec la polémique autour d'Hugo Clément.
Ouais,
c'est
absolument.
Participer à cette banalisation, c'est ce qu'on a voulu pointer du doigt. Et ben, bon sang, les gens sont pas du tout prêts à entendre ça. Quand je dis les gens, bah, c'est pas les énormes gauchos énervés du coup comme nous, ce qu'on peut se considérer, mais vraiment le milieu, le middle, ils ont aucune envie d'entendre ça. C'est impossible qu'ils l'entendent, ce discours-là. C'est chiant, en fait. Enfin, c'est fou, non ? On fait quoi, du coup ? Ils veulent pas entendre.
Bah, je pense qu'il faut, remettre, en fait, un petit peu, j'allais dire, l'église au cœur du village.
Après,
je me suis dit, waouh, je vais pas dire cette phrase.
Ouais, du coup, dans ce sujet-là,
voilà.
On met bien l'église, hein, bien la bonne église.
Mais je crois qu'il faut rappeler aux gens pourquoi, en fait, l'extrême droite a été aussi longtemps maintenue de l'autre côté du cordon sanitaire politique et que la raison, c'était pas une pudeur morale. L'extrême droite assassine. L'extrême droite tue. Elle est meurtrière dans son essence. Et aujourd'hui encore, l'extrême droite française, elle tue. Les gens oublient que 2022, c'est l'année où l'extrême droite a tué 5 personnes en France, à Paris. C'est le meurtre de Martine Aramburu par Loïc Le Priol. C'est le meurtre d'un jeune homme racisé par Martial Lanoir dans Paris. Un meurtre dont personne ne se rappelle. C'est le triple meurtre de décembre par William Mallet. Et en fait, ces assassinats qui sont commis par des terroristes d'extrême droite ne sont jamais qualifiés de terrorisme. Ne sont jamais étudiés ou, on va dire, investigués comme étant des actes terroristes. Donc, dans notre mémoire collective, ils ne s'inscrivent pas comme tels. On les oublie. Là où le djihadisme, on s'en rappelle tout le temps.
Moi-même, je les ai oubliés. Enfin, je sais qu'il y en a eu des attentats d'extrême droite. Je suis incapable de te les nommer, de te dire en quelle année,
on
de dire qui, quoi,
pas,
quand, comment.
C'est ça, on s'en rappelle pas. Personne ne se rappelle que depuis que Marine Le Pen est à la tête du Front National, donc depuis 2011, qui est devenu depuis le Rassemblement National, il y a eu plusieurs cas de tentatives d'attentats ou d'attentats commis par des gens qui étaient membres de son parti, parfois à des hauts postes, comme Sébastien Dudognon, qui était président du Front National de la Jeunesse et qui a essayé de commettre des attentats à la bombe, comme Logan Nissin, qui voulait assassiner Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon, qui était un colleur d'affiches du Front National, ou comme Claude Sinquet, qui était un candidat au municipal du Front National et qui a incendié la mosquée de Bayonne et essayé d'assassiner deux fidèles. Les gens ne savent même pas que c'est un ancien du service d'ordre du Front National qui, sous la présidence de Marine Le Pen, hein, a armé Amédi Coulibaly, le terroriste de l'hypercachère. Personne ne se rappelle de tout ça. Donc ça finit par donner cette impression que l'extrême droite, au fond, c'est un peu comme l'oncle raciste au repas de famille. Ah, ils sont un peu chiants, ils sont un peu gênants, mais ils sont pas bien méchants. Et est-ce qu'ils sont vraiment si racistes que ça? Non, ça passe pas. C'est des gens qui vont venir nous tuer et qui sont en train de le faire. Europol a placé la violence d'extrême droite en France au premier rang des dangers et des risques terroristes au niveau européen. On est même au-dessus du djihadisme à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que le djihadisme n'est pas un risque dangereux ou n'est pas un problème. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui en France, le risque d'attentat d'extrême droite est factuellement plus important. La preuve est que l'année dernière, on a eu trois attentats différents commis par trois personnes différentes.
Et tentatives d'attentats aussi.
Oui, sans parler des tentatives.
Et là, le jour où on enregistre le podcast, je crois qu'il y a un maire qui a démissionné. Vous avez vu un maire.
Le maire de Saint-Brévin-les-Pins.
Yes, parce qu'il se faisait intimider par des...
On a brûlé sa maison, des bagnoles.
Et on a voulu le brûler.
On essayait de le brûler lui, il était dans la baraque. Hein.
Quand vous dites on, c'est donc des militants d'extrême droite.
L'ultra-droite.
Non, et alors l'ultra-droite n'existe pas.
Bah oui,
très
d'ailleurs,
important,
c'est une expression. Hein. Ouais. C'est incroyable, ultra-droite.
C'est ça.
Ça n'existe pas. C'est ce que des gens aiment dire à la place de l'extrême droite, du coup.
C'est ça, parce qu'en fait, c'est une manière de déplacer la violence hors des partis politiques, comme si ce n'était pas connecté. Mais là, on a vu une marche de néo-nazis dans Paris, 400 néo-nazis.
Avec des proches de Marine Le Pen.
Parmi lesquels, il y avait, par exemple, Axel Lousteau, qui est un des cadres du Rassemblement National, qui est un ancien du GUD, qui est quelqu'un qui est connu pour des faits de racisme, qui est connu pour des faits d'intimidation, et qui est aussi soupçonné, et ça c'est très important, on l'oublie, mais on soupçonne que ce serait lui qui aurait versé les 25 000 euros de la caution de Loïc Le Priol, Loïc Le Priol qui est l'assassin de Martine Aramburu. Et donc, en fait, il aurait payé la caution de Loïc Le Priol, qui était accusé dans une affaire précédente de torture, pour le faire libérer. Et en fait, c'est grâce à ça que Loïc Le Priol aurait été en liberté au moment de son assassinat. Donc, ce qui est extrêmement grave, ce qui est encore de l'ordre de l'investigation, qui est questionné par plusieurs médias. Mais cette personne-là, aujourd'hui, est un cadre du Rassemblement National. C'est une personne extrêmement importante qui était trésorier du Front National de la campagne précédente de Marine Le Pen. On ne peut pas dire que ce parti a changé. Ce parti n'a pas changé. On n'arrête pas de retrouver des profils. Philippe Vardon, qui était un élu du Sud, qui était un ancien skinhead, un des fondateurs du bloc identitaire et qui s'est retrouvé élu Rassemblement National en région PACA. Donc il ne faut jamais sortir la violence de l'extrême droite à l'ultra droite, parce que la réalité, c'est que les deux sont imbriqués. Ces deux ensembles qui fonctionnent main dans la main. Et il faut se rappeler qu'en fait, le Rassemblement National est la façade de tous ces groupes meurtriers. Et ce qui s'est passé à Saint-Brévin-les-Pins, ça en est la preuve, parce que c'était beaucoup de militants de Zemmour qui étaient dans ces manifs-là. Donc pour le moment, on ne sait pas qui a mis le feu. Mais on sait qu'en tout cas, le mouvement de violence qui a conduit à la démission de ce maire et qui a conduit à ce qu'on incendie sa maison, etc., etc., il était porté par le parti d'Éric Zemmour.
Et du coup, donc, on a pas menti hein, quand on vous a dit qu'il était spécialiste de l'extrême droite. moi, je me dis, là, il y a des gens peut-être qui nous écoutent, et de manière générale, quand on essaye de parler de ça, du fait qu'il faut continuer à diaboliser, souvent, on nous pointe les gens qui votent extrême droite. C'est-à-dire que c'est difficile parce que là...
Ça se fait pas parce qu'il y a un quart des Français
que vous insultez. Enfin, en gros, c'est quoi. Voilà, ou qu'on marginalise. Enfin, et du coup, déjà, ça c'est compliqué. Mais déjà, de base, j'aimerais que les gens qui nous écoutent comprennent que là, ce que tu dis, Mathieu, c'est pas un point de vue. C'est, enfin,
c'est
orienté, mais plein de faits et plein de chiffres qui sont tous vérifiables et qui sont tous même consultables. C'est-à-dire que tout un chacun peut taper sur Google tous les noms que tu as cités et retrouver l'historique. Donc déjà, premièrement, je trouve que c'est important de se rappeler que à un moment, ok, Justine et moi, par exemple, des fois, quand on donne notre avis, on n'a pas d'expertise. Maintenant, on essaye de se renseigner et d'avoir pris des sources, mais nous, à la rigueur, on fait de l'opinion, on donne notre avis. Mais quand on utilise des sources de gens qui ont écrit des livres, des sociologues, des anthropologues, c'est pas des avis qu'ils donnent. C'est, ils ont choisi ces sujets-là parce que ça vous tordait le ventre, peut-être, ça vous donnait envie, mais ce sont des faits chiffrés. Mais maintenant, ma question, c'est comment on fait pour répondre effectivement à ceux qui nous disent mais du coup
vous chiez sur
vous
la gueule,
méprisez tous les votants du RN. Enfin, en vrai, on est un peu en ce moment bloqué dans ce truc là de est-ce que toi tu t'adresses à eux du coup, à ces votants là, enfin, quand tu fais ces enquêtes, tu veux toucher qui finalement?
Moi, ce que je veux, c'est rediaboliser le Front National.
Ouais.
Je veux qu'on remette le Front National à sa juste place et dans la poubelle des partis politiques.
Oui, mais si c'est là, si on parle des, comment dire, des responsables du Front National, les noms que tu as cités, on peut les diaboliser. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord de diaboliser un néo-nazi ou un ancien SS. Mmh. Mais nous, on a aussi, quelque part, un peu envie de diaboliser les votants extrême droite. Est-ce que ça aussi tu le fais ou comment on fait pour, enfin tu vois, parce que ça ne marche pas. Ça,
les gens nous en veulent. Vous pouvez pas voter à l'aveugle, quoi. Tu vois, pour revenir vite fait sur la polémique Hugo Clément. Donc je le rappelle vite fait, Hugo Clément s'est rendu à une soirée chez Valeurs Actuelles pour aller donner des idées écolo au Rassemblement National. Voilà, grossièrement.
Vérité.
Et bon voilà. Et du coup, à la suite de ça, effectivement, alors lui, la manière dont il se défendait, c'était, on peut pas calculer un quart des Français. C'est pas possible de les de les prendre pour des moins que rien, de les mépriser, exactement. Et du coup, c'est aussi ce que beaucoup de gens nous ont reproché dans cette prise de parti, puisque nous, on était complètement contre cette idée d'aller donner des bonnes idées au RN, quoi.
Comme si c'était des gens classiques et parti tout à fait lambda, qui valaient n'importe lequel autre.
Et du coup, oui, voilà.
Je trouve que c'est un très bon exemple, parce que voilà, s'adresser à l'électorat RN en disant on va pas les abandonner, c'est un quart des gens, on va leur parler d'écologie. Bah, c'est super. On sait ce qu'ils en font, l'extrême droite, de l'écologie, puisqu'on en a déjà des exemples. On a déjà le mouvement des localistes, qui est un mouvement porté par des cadres du RN. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah bah oui, il faut revaloriser nos territoires et pour ça, il faut virer les immigrés. C'est ça, hein, ils ont un petit papier comme ça, vous pouvez le lire, c'est en ligne, c'est un PDF, et ils expliquent leur stratégie pour sauver le vivant, c'est un retour de la frontière, un retour de l'État fort, un retour de l'État policier et la lutte contre l'immigration.
Et ça sauvera la planète.
Ça va sauver la planète. RN. Si vous donnez ces thèmes-là à l'extrême droite, c'est pas des gens qui vont venir avec vous faire des jardins partagés. C'est des gens qui vont s'emparer du thème pour alimenter leur représentation raciste. Et à la fin, ça peut donner des cas extrêmes, comme on l'a vu avec Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande, qui a utilisé l'écologie pour justifier son attentat, donc l'attentat de Christchurch, où il a tué 51 personnes. Et il a utilisé l'argument écologique en disant « il faut sauver la planète et pour ça, il faut tuer les immigrés
». Si on est trop nombreux, ils savent.
À un moment, il n'y a pas de dialogue en fait, avec des gens qui sont racistes, avec des gens qui sont homophobes, avec des gens qui sont transphobes, qui sont validistes, etc., etc. Moi, j'en ai marre qu'on m'appelle en permanence à dialoguer avec l'extrême droite. Moi, je veux simplement rappeler aux gens pour qui ils votent. Je veux qu'ils sachent. Je veux pas qu'ils puissent dire « Ah, mais on savait pas. Ah, on a voté par dépit, etc. Et tout. » T'as voté pour des nazis par dépit, t'as voté pour des nazis. C'est tout. Faut arrêter. Et je dis le mot nazi parce que le Front National a été fondé par des nazis. Oui. Pierre Bousquet notamment, voilà. Si vous voulez vérifier, c'est pareil, c'est tout à fait.
Oui, mais c'était il y a longtemps.
Non, mais nous, on adore se rappeler. Il y a 20 ans, quand on était jeunes, Camille et moi. Et toi, t'as quel âge, Mathieu?
J'ai 31.
Ouais, bon voilà, comme on est de la même époque, quoi. Quand c'était la honte de ouf de voter pour Marine Le Pen.
On avait manifesté, Jean-Marie Le Pen. On avait manifesté au collège en 2002, tu vois.
Mais moi, je me rappelle la descendue dans la rue. Exactement. Exactement. Et ça, il y a eu un glissement comme ça dans le discours public. Ouais. Et c'est passé beaucoup, moi je trouve, par non, mais l'électeur FN, au fond, il ne fait pas exprès, il ne se rend pas vraiment compte,
voilà,
etc.
C'est ça que je voudrais que les gens comprennent. C'est justement parce qu'on a dédiabolisé qu'il y a de plus en plus de votants, je pense. Je pense qu'ils se trompent en disant là, vous les marginalisez, vous les pointez du doigt, donc vous les convainquez encore
ils
plus
votent,
de leur.
Ils votent RN parce qu'ils sont perdus, ils savent pas où voter.
Non, mais ça, c'est bon, ça, on a déjà établi. T'es perdu et tu prends à droite, du coup, à l'extrême droite, t'es pas perdu,
moi, je
très
crois
bien
qu'ils savent où ils votent.
Mais moi aussi,
moi, je crois que les gens, ils ont des convictions racistes.
Et je crois
très
que c'est justement plus on dédiabolise, plus il y aura des votants, réfléchissez, plus on le dédiabolise et plus les gens vont voter en se disant que c'est un parti comme un autre, avec des valeurs comme les autres, enfin, qui se valent tout autant que l'extrême gauche. Ça, c'est encore un autre.
Oui, mais donc quoi, vous pensez vraiment qu'un quart des Français sont racistes?
Peut-être.
Ouais.
De toute façon, je m'en fous, moi. Moi, je veux simplement que ces gens, à un moment donné, ils comprennent que les fondements de leurs croyances, qui sont, par exemple, les immigrés sont responsables de l'insécurité, c'est faux. Je veux que ces gens, ils comprennent que l'extrême droite n'a jamais tué personne, ou alors c'était il y a longtemps, c'est faux. L'extrême droite, elle a tué très récemment et elle retuera dans pas longtemps, malheureusement. Je veux que ces gens, ils comprennent que Marine Le Pen n'est pas raciste, c'est pas son père, le parti de Marine Le Pen n'a rien à voir avec le parti de son père, c'est faux. Je veux qu'une fois qu'on ait accumulé toutes ces données-là, la personne qui vote, elle puisse plus me dire mais je savais pas. Donc pour moi, en fait, ma responsabilité, c'est d'informer les gens. Et c'est comme ça que je travaille. Moi, je me dis, je vais aller dans leur discours. Moi, j'ai remarqué qu'à gauche, on n'allait pas dans le discours de l'extrême droite. Par exemple, sur la question sécuritaire, on va jamais frontalement en contact avec eux. On les laisse dire sur l'insécurité. Ah oui, la France est un pays de plus en plus dangereux, comme si c'était une réalité factuelle. Alors qu'il suffit d'aller regarder les chiffres pour se rendre compte que c'est absolument un mensonge. Et donc, à partir du moment où on attaque, je veux dire, les fondements idéologiques de leurs croyances, moi, je crois qu'on sortira des gens de l'extrême droite. Mmh. Par contre, si on passe notre temps à vouloir les caresser dans le sens du poil, mmh, et essayer de les convaincre que
oui,
ah, l'écologie,
bébé,
ah là là... par exemple, Hugo Clément, il m'a beaucoup choqué sur l'écologie quand il est venu parler. À un moment donné, à la fin de son intervention que j'ai regardé en entier, il est allé et il dit « Oui, et puis il y aura aussi des vagues d'immigration massives que personne ne pourra arrêter. » Et je me suis dit « Mais là, c'est quoi le sens de cet argument ?»
Oui, ouais.
C'est de dire « Ah, vous avez peur des immigrés, donc devenez écolo, comme ça, il y aura moins d'immigrés. » Moi, je veux dire, on peut, c'est pas dialoguer avec l'extrême droite, ça, c'est nourrir leurs imaginaires, ouais, c'est leur donner du grain à moudre, c'est nourrir leur racisme. La seule manière de débattre avec l'extrême droite, moi, je suis pas fondamentalement contre, mais c'est de le faire à la condition express de les attaquer en permanence sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens racistes, discriminants,
oui,
violents,
voilà,
homophobes, sexistes,
etc. Ce n'est pas d'aller,
etc.,
les prendre comme un parti comme les autres.
Non,
mais
non,
après, pour te
globalement,
répondre,
Hugo,
oui,
Clément a fait,
oui,
à
oui,
savoir,
oui,
il n'y a pas, l'écologie n'est pas politique, lol. Mm. Et le RN, je suis allé leur parler comme à des gens normaux. Mais oui, mais non, ce ne sont pas des gens lambda,
mais
classiques.
Après, pour répondre sur ce que tu disais, du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'un quart des Français est raciste? Je fais une petite analyse de comptoir, vraiment. Mais en fait, pour dédouaner ces gens-là, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent se dire pas forcément. C'est juste qu'ils allument la télé, ils écoutent nos politiques. Et comme tu l'as
ils
dit,
ils ont
Mathieu,
presque pas le choix, quoi.
En fait, non, mais non seulement déjà, ils ont presque pas le choix parce qu'il y a un bourrage de crâne. Mais en plus de ça, s'ils sont un peu anti-Macron, par exemple, s'ils aiment pas trop le milieu, tu vois, genre gauche, droite. En fait, dans les médias, il y a aussi une diabolisation très forte de l'extrême gauche. Aujourd'hui, Darmanin n'arrête pas de dire les groupes d'ultra-gauche et de mettre un espèce de parallèle. Et ça, dans la tête de beaucoup de gens, eh bien, et on le reçoit nous-mêmes beaucoup en commentaire. L'extrême gauche, c'est pareil que l'extrême droite, dans l'inconscient des gens. Et donc, si tu es
c'est
perdu,
les deux extrêmes, ouais,
et ben, tu peux penser vraiment que c'est valable. C'est-à-dire que tu ne vas pas du tout aller vers l'extrême gauche. Et du coup, ça justifie aussi le fait qu'il y ait de l'extrême droite, comme il peut y avoir d'extrême gauche, alors que c'est vraiment, vraiment pas la même chose. En fait, c'est même peut-être pas qu'il y a un quart de gens racistes, c'est qu'il y a un quart de gens qui sont amenés tous les jours, en allumant leur télé, en écoutant nos politiques, déjà à être le crâne lobotomisé de c'est la faute des immigrés, c'est la faute des immigrés, c'est la faute des immigrés, et en plus de toute façon l'extrême gauche c'est tout aussi pire. Donc en fait,
c'est une croyance ça qui est jusque même dans les services de sécurité. Par exemple, quand tu lis les rapports d'Europol sur le terrorisme, c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte que quand ils chiffrent toujours le risque terroriste de ce qu'ils appellent l'ultra-gauche. Et quand tu regardes dans les faits, c'est toujours des chiffres assez élevés. En Italie, c'était des chiffres très élevés. En France, pareil. Et quand tu regardes, tu te dis, mais waouh, il y a autant d'attentats. Parce que moi, je me dis, mais peut-être j'ai un biais et que je ne le vois pas. Je suis tellement enfermé dans ma représentation. Donc après, je vais creuser, j'essaie de voir de quels actes on parle, etc. Et en fait, quand on parle des attentats d'ultra-gauche, c'est systématiquement des atteintes aux biens. Par exemple, Sainte-Soline ou des trucs comme ça. On va parler d'éco-terrorisme. Et
ça
va être rangé dans le terrorisme.
Les écologistes qui font qui taguent des trucs.
Et ça, il y a des cas qui vont être comme ça. Donc, il n'y a jamais eu de violence sur personne, qui vont être catégorisés de terrorisme.
Oui, personne n'est mort.
Non. Là où des atteintes meurtrières faites par l'extrême droite ne vont pas être catégorisées. Par exemple, dans le dernier rapport d'Europol, il n'y avait pas Loïc Le Priol. Il n'y avait pas Martial Lanoir. Parce que, en fait, ces affaires-là, Europol, ils se contentent de reprendre la classification qui a été faite par le pays, en gros, européen qui envoie les données. Et en France, on ne classifie pas ces affaires comme des affaires terroristes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc du coup, ça ne remonte pas et ça participe à construire une espèce de représentation collective où même dans le travail des forces de sécurité, dans la tête des gens qui sont censés enquêter, ben, ils se disent « Ah oui, non mais attention, là la priorité c'est l'ultra-gauche, on est débordé par l'ultra-gauche, vous êtes débordé par quoi? Vous allez empêcher des gens de faire un trou dans un trou à Sainte-Soline plutôt qu'empêcher un type de commettre un attentat et d'aller tuer trois personnes comme à Paris. »
Ça c'est présenté comme des cas isolés, pas politisés quoi.
C'est un type, c'est... Voilà, c'est
un tireur fou.
Exactement, c'est ça. C'est le mot fou qui est hyper important. C'est incroyable. On pathologise systématiquement. William Mallet, ils ont tout fait pour pathologiser son passage à l'acte. Ouais. Ils l'ont envoyé chez les psys, ils ont dit « Ah non, mais c'est sûr qu'il est fou, etc. » Le type, pendant l'enquête, il déclarait comme ça « Je voulais commettre un attentat. Je voulais m'en prendre à des immigrés. J'avais décidé de tuer des étrangers. » Tout ce qu'il disait, c'était clair. Le mec a dit lui-même « Je voulais commettre un attentat. » On l'a envoyé chez les psys. Les psys ont dit « Non, il était conscient de ses actes. » Mais il avait peut-être quand même... son jugement n'était pas suspendu, mais bon, il avait quand même des légers problèmes psychologiques. Oui, il a tué trois personnes. Oui. Évidemment, ça marche avec n'importe qui tue n'importe qui.
Oui.
Et ils sont emparés de ça, du psy, qui disent qui est l'évidence, pour dire, oui, bon, regardez, c'est vrai, son jugement n'était pas
border.
Suspendu.
Si tu vas tuer des gens, t'es border. De toute façon, il y a
t'es même de l'autre côté que de la border.
Oui. Oui.
Et on t'explique que c'était pas politique. Mm. Ah non, c'était pas politique. Mais comment ça peut ne pas être politique un meurtre raciste de quelqu'un qui dit « je voulais faire un attentat » et qui dit « je voulais m'en prendre à des immigrés ». C'est fondamentalement raciste. Comment on peut dans notre pays ne pas relier ça au discours de l'extrême droite, à un discours dominant raciste qui est partout? C'est là où moi je pense que vraiment on a un travail militant à faire, mais qui est essentiel, qui est de s'emparer de ces sujets en permanence, de les matraquer aux gens pour qu'ils s'en rappellent et pour réussir en fait à faire ce travail qui n'est fait ni par les médias ni par le milieu politique, de rediaboliser l'extrême droite et espérer peut-être petit à petit empêcher même des gens de nos propres camps. Moi j'étais choqué pendant l'élection présidentielle du nombre de gens qui disaient « Ah mais pour aller contre Macron, on va voter Le Pen ». Et moi je me disais « Mais c'est pas possible, pas possible, mais vous avez pas compris quoi ».
Et ceux de nos propres camps qui, du coup, vont avoir la diabolisation de l'extrême-gauche en souvenir de quoi? Ils vont citer qui? Staline. Enfin... Mais nous, quand on dit que le FN est fondamentalement nazi, on parle même pas d'Hitler, les gars. On parle de gens qui sont encore
les
en vie maintenant.
Les fondateurs, les gens qui ont déposé...
On parle de gens maintenant, tu vois. Alors, vous êtes mignons avec votre Staline.
Mais toi, t'es communiste, toi. T'étais au Parti communiste. T'as foutu un pied au Parti communiste. Pourquoi est-ce qu'on me renvoie à ça? Moi, j'ai rien à voir. Les gens qui vont au Front National, ils sont dans un parti... Non, mais c'est vrai. Ils sont dans un parti dont les statuts ont été déposés par des gens qui étaient des SS.
Oui.
Ça, c'est un lien direct avec le nazisme.
Oui, voilà.
Moi, je suis désolé. Moi, on me dit que je suis un wok, mais très bien, je suis un wok. Moi, je me vois comme quelqu'un d'antiraciste, qui est dans les luttes contre le validisme, qui est dans les luttes contre la LGBT-phobie, etc., etc. Mais pour autant, je ne suis pas quelqu'un qui est partisan d'un parti politique ou d'un autre. Moi, je ne suis pas au parti de Mélenchon, je ne suis pas chez Roussel, je suis chez personne. J'essaie juste moi d'informer sur les violences d'extrême droite. Donc moi quand on parle de Mussolini, de Staline, de tout ça machin et tout, ça me concerne
pas. Non mais
je
suis d'accord, mais n'empêche que ça prend de la place pour de vrai dans la tête des gens qui ont du mal à, même des gens qui nous suivent et tout, qui sont un peu qui sont plutôt de gauche, mais qui vont vraiment être persuadés que c'est la même chose, qui mettent vraiment un effet miroir. Et ça, c'est...
Mais s'ils décident de voir les choses comme ça, en fait, à un moment donné,
c'est de la mauvaise foi aussi.
C'est de la mauvaise foi, c'est qu'ils ont décidé de voir les trucs comme ça. S'ils pensent que un influenceur comme vous, un influenceur comme moi sur ces réseaux là c'est quelqu'un qui a un lien quelconque avec le parti communiste, maoïste, staliniste des années 60, franchement, il fait exprès. Il fait exprès.
Oui, non, mais bien sûr.
Par contre, trouver des liens directs entre Zemmour et une pensée fasciste, c'est extrêmement facile. Ouais. Parce que le mec, il le dit lui-même, il tient des discours comme ça de réhabilitation, de généraux, collaborationnistes, racistes et tout ce qu'on veut. Donc, sur Pétain, tout simplement. Le discours de Zemmour sur Pétain, qui a été repris aussi par Macron. Hein,
oui, exactement.
Ce discours de réhabilitation permanente de ce type.
Du coup, toi, tu voulais, aller où?
Où est-ce que tu voulais aller?
Recontextualiser sur son compte Insta, parce qu'on n'a pas trop présenté.
Toi et moi,
tu lis en moi comme dans un livre ouvert.
On serait pas Camille et Justine? On serait pas ensemble depuis trop longtemps?
Oui, donc Mathieu, toi tu fais des vidéos sur Instagram principalement, pas trop les autres réseaux sociaux.
Un peu pas mal TikTok.
Un peu TikTok,
TikTok et Instagram.
C'est le format TikTok aussi. Oui. Et donc, notamment, tu as une vidéo d'ailleurs qui retrace un peu les débuts du Rassemblement National.
Et voilà. t'as des haters, c'est pas la fin de ma question, parce que je sais que oui, mais...
et je pense que c'est un de nos points communs.
Non, ça c'est sûr. Mais qui nie tes arguments, enfin je veux dire, parce que, encore une fois, je disais tout à l'heure que Justine et moi, nous, on peut nous attaquer sur le côté, vous êtes des discussions de comptoir, machin, parce que nous, on source pas tout, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'opinions, et en plus, on fait beaucoup d'humour autour de ça. Toi, c'est quand même très sourcé, c'est plus un travail journalistique, anthropologique, du coup, mais t'as quand même des gens qui nient tes connaissances, enfin qui vont venir en commentaire te dire t'as tort, tu te trompes et tout.
Non, je les mets vraiment en difficulté quand même.
Ouais,
Alors, de temps en temps, j'ai vraiment des petits losers qui essaient de reprendre mes vidéos sur TikTok et qui font des réponses en essayant d'être à fond dans la mauvaise foi, mais c'est tellement maladroit. Franchement, même pas je réponds. Enfin, des fois, ça me fait plus un peu rigoler.
Ouais.
Le problème, c'est que du coup, quand il n'y a plus de réponses Et comme on parle de l'extrême droite, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils switchent direct à la violence. Mm. Donc, j'ai beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes, énormément de provocations en duel. Ça, c'est assez marrant.
En duel ? Ouais.
J'ai beaucoup de mecs d'extrême droite.
À l'épée, un combat à l'épée.
Mais qui font même des vidéos et tout. Et qui me disent, ouais, viens, toi et moi, on fait un combat de boxe. Toi et moi.
Ah, mais de les muscles et tout, là.
Ah, c'est la... Parce que, du coup, je les bloque sur le rationnel. Donc, la réponse, ça va être, viens, on va faire un combat de boxe tous les deux. Bah. Toi et moi, j'en ai un, il m'écrit comme ça. Toi et moi, princesse, combat de lutte. Et son compte, c'était, je crois que c'était Lucas le lutteur.
Mais parce que quoi, s'il te bat à la lutte, du coup, tu vas dire, ok, t'as raison, en fait, j'adore l'extrême droite.
Du coup, Loïc Le Criol n'a plus tué Martine Aramburu. C'est ça, le terrorisme d'extrême droite n'existe plus. Le dernier que j'ai eu, c'était un gars qui faisait de la boxe thaï qui me disait, ouais, viens, il m'a donné l'adresse de son club et tout à Paris. D'ailleurs, il faut que je leur écrive pour leur dire quel genre de personne ils ont. Très tatarasse et tout, machin. Très tatarasse d'homme, il m'a écrit. Comme
bien
ça.
Sûr.
C'était assez intéressant comme choix de mots. On va se retrouver au club et c'est, j'en ai plein comme ça qui veulent me défier en duel. Et ça,
nous, on n'a pas ça. Nous, c'est vraiment venez faire un débat avec Julien Rojdi, il va vous assassiner. Tu vois, genre avec, mais avec les idées, ce qui est déjà.
Ou alors traîner en banlieue et puis il y a des migrants, ils vont venir et puis ils vont.
Oui, on va voir si vous les aimez autant si vous traînez en banlieue. Non, mais on n'a pas le. Bah non, parce qu'on est des femmes, donc on va nous provoquer à la bagarre.
Voilà, il n'y a pas, je pense, de trucs valorisés en termes de représentation genrée, masculinité toxique.
Ouais, nous, c'est plus des appels au viol ou menaces de mort.
Et c'est surtout, nous, ça suffit de penser qu'on est idiotes, c'est-à-dire que nous, c'est très rapide, c'est n'importe quel mec d'extrême droite débattrait avec vous, il vous assassine en deux phrases.
Absolument,
chose que j'ai, qui me fait quand même vraiment rire. Et hier, justement, je disais à Justine, ça commence à me titiller, je commence à me demander qu'est-ce qui se passerait si j'étais vraiment en débat avec un mec d'extrême droite, parce que leurs idées, elles sont tellement fausses, infondées, pas sourcées.
Moi, je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'il
ne
faut pas le faire comme Hugo Clément.
Ouais.
Il faut, mais on peut y aller à condition simplement de savoir qu'on va dans une arène. On va là, pour le coup, dans un champ de bataille idéologique. Donc, il faut arriver préparé. Il faut arriver en ayant beaucoup de choses précises à répondre à leurs arguments, en sachant qu'ils vont être de mauvaise foi. Il ne faut pas avoir peur d'être de mauvaise foi soi-même. Il ne faut pas vouloir satisfaire toute sa communauté derrière qui t'écoute, parce que quand tu es dans un débat, tu ne peux pas te permettre de contrôler autant ta parole, tes mots, etc. Parce que tu es jeté dans le champ de bataille. Tu fais ce que tu peux. Et par contre, il faut le faire. Et moi, je l'avais fait sur TikTok au tout début de la chaîne avec un gars qui se faisait appeler Le Braque. Un type très raciste, très dans la discrimination et tout, qui arrêtait pas de faire des vidéos sur moi, j'en avais marre. Et je lui ai dit, un jour, viens, on fait un débat. Et là, en fait, le gars s'est effondré pendant le débat. Il savait rien, en fait. Il était perdu. Sa propre communauté lui disait, mais tu dis n'importe quoi, tu t'en sors pas et tout. Et je m'étais dit, mais en fait, ces gars, en fait, ils ont beaucoup de certitudes. Mais surtout quand tu viens les attaquer sur leur petit précaré, qui est la question de la sécurité, par exemple. L'immigration est violente, il y a de l'insécurité en France, et que tu arrives avec des chiffres, eux, ils n'ont jamais lu une statistique. Ils disent que des espèces de trucs qui sont des préjugés, des préconçus. Ils n'ont aucune connaissance concrète. Mmh. Et sur ça, moi, je pense qu'on pourrait les bouffer vivants. Mais en fait, je pense qu'ils évitent volontairement les débats qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ça peut paraître paradoxal, parce que j'avais attaqué Hugo Clément sur son débat, parce que pour moi, ce n'était pas un débat. Il allait faire une petite discussion sympathique dans un truc organisé par Valeurs Actuelles.
Donc,
c'est déjà orienté, c'est déjà normalisé, banalisé un journal d'extrême droite. Et en plus, il a parlé d'écologie sans jamais attaquer les fondements, je le redis, c'est ça la condition. C'est attaquer le racisme, renvoyer ces gens à leur racisme, aux discriminations, à tout ce qu'ils font. Mais si tu fais ça... moi, j'avais été dans un débat une fois avec un député, donc c'est Aurélien Taché, qui était du coup un ancien macroniste passé choqué par la Macronie et du coup passé un peu vers la gauche PS, quoi, la SOSDEM, on va dire, et Charlotte Dornelas, donc qui est chroniqueuse chez CNews, représentante de la famille de la Manif pour tous,
une bonne personne,
femme catholique, d'extrême droite, très raciste, très appréciée dans les milieux d'extrême droite et tout. Et je m'étais rendu compte que elle gère le débat, c'est impressionnant, hein. c'est quelqu'un qui est une professionnelle de ça. Elle le fait sur CNews en permanence, elle sait très bien le faire. Mais n'empêche que quand tu viens l'attaquer à nouveau sur les principes et les concepts même de ses croyances, elle est désarmée. Donc elle va contourner, elle va changer de sujet, mais tu arrives à la déstabiliser.
Mais oui, mais ça, j'ai l'impression que ça y est, on a quand même capté. C'est un peu comme quand Zemmour, il faisait sa campagne et que tout ce qu'il disait, c'était débunké très vite par des historiens, des historiennes, des philosophes, des gens qui avaient étudié sa pensée, des gens dont c'était le métier. Mais ça n'a pas empêché 7% de la France de voter pour lui, tu vois.
Déjà, la fake news sera jamais... la fake news aura toujours beaucoup plus d'impact que sa déconstruction.
Mais j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils sont... en fait, c'est comme s'ils s'en fichaient. On parle d'un quart des Français et c'est quand même comme s'ils s'en fichaient. Alors je sais pour leur crédit que c'est les médias, tout ce qui se bouffe dans la tête régulièrement, qui dédramatise, qui banalise.
Dire pour le crédit de certains, parce que je pense qu'il y en a qui votent avec
ferveur. Mais ils s'en foutent que ce soit pas les bons chiffres, qu'ils disent n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent.
En disant c'est pas les bons chiffres, c'est les gauchos. C'est-à-dire, c'est le chercheur, ah là là, mais lui, il est dans sa. C'est le petit bourgeois. Bourgeois, chercheur, c'est comme ça que les gens nous perçoivent.
On est foutus.
On n'est pas foutus, mais à un moment donné, en fait, il faut bien qu'on comprenne qu'on est tout seul. On n'a pas d'alliés.
Oui, c'est vrai.
C'est tout. En fait, on n'aura pas d'alliés du côté de la Macronie. On n'aura pas d'alliés. La Macronie, aujourd'hui, elle joue la partie du Front National. Ils ont décidé de se mettre d'eux-mêmes dans les plates-bandes du Front National. C'est Darmanin qui allait débattre avec Le Pen en disant « je vous trouvais un peu molle sur l'immigration ». Oh, il a réitéré ses propos la semaine dernière en parlant de Giorgia Meloni en Italie et en disant au passage « ah ben regardez l'extrême droite sur l'immigration quand ils se font élire, ils sont pas aussi racistes qu'ils en ont l'air ». Et tu te dis « mais attends ».
Ouais, genre c'est marrant de dire ça.
Enfin, bah, comme il ferait mieux.
Frontex c'est marrant, les morts dans la Méditerranée c'est marrant, ce qui se passe à la frontière franco-italienne, c'est marrant. En fait, tu vois, le type, il est en train de jouer des petites polémiques comme ça en se mettant en concurrence sur la question de l'immigration, donc de la discrimination avec le Front National. On n'aura jamais aucun allié de ce côté-là. On n'aura jamais aucun allié, même peut-être dans une partie de la NUPES. J'aurais jamais un allié en la personne du dirigeant du Parti communiste. Là, j'ai un blanc sur son nom. Roussel. Ah. Voilà. Ce type sera, c'est pas notre allié.
Ah bah non.
Lui,
bah
il joue
non.
le discours sécuritaire. Lui,
il a fait la manif pro-flic.
Voilà, il joue des cartes différentes des nôtres. Donc à partir de là, moi je pense qu'il faut qu'on décide qu'on ait un camp tous ensemble, qu'on trouve une manière de fonctionner ensemble, en considérant que on a des différences, que tout le monde peut pas être militant, spécialiste de tout. Il y a des limites à ce qu'une personne peut faire. Moi, je pense en capital militant à ce niveau-là. En soi, on a un capital de militantisme parce qu'on a le travail. On a ces histoires de famille, ces histoires d'amour, ces amitiés. On a une vie à mener. Et à côté de cette vie, on a aussi, un peu mélangé avec le reste d'ailleurs parfois, le militantisme. Et ça, c'est un pourcentage de ce qu'on a en temps à consacrer dans nos vies. C'est un temps d'information, c'est un temps d'action, etc. Mais ce temps d'action, il n'est pas illimité. Si on commence à vouloir l'étendre à l'infini, on fait ce qu'on appelle un burn-out militant. On n'arrive plus, on est dégoûté de ça, on n'arrive plus à se renseigner.
On veut être sur tous les fronts
voilà,
et on
se bouffe
pas.
La vie. Donc il faut accepter que les gens, ils ont ce capital-là et qu'il est plus ou moins grand chez les uns et chez les autres. Moi, j'attends pas que de tout le monde qu'ils aillent infiltrer l'extrême droite et qu'ils aillent faire autant que ce que moi j'ai fait.
Non, mais partager les contenus, par exemple.
Oui,
ils peuvent. Partager nos contenus,
ça, c'est important.
C'est partager. Moi, j'ai envie aussi de dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est nous accorder un tout petit peu plus de crédit. Je m'explique, c'est que... On reçoit parfois beaucoup de messages qui disent jusqu'ici j'étais d'accord, mais là sur ce point, et j'ai envie de dire accordez-nous du crédit. C'est-à-dire que si jusqu'ici vous étiez d'accord, si on partage des valeurs fondamentales de base, c'est que peut-être qu'on vous emmène sur un terrain qui vous chatouille un peu plus, ça vaut le coup que vous alliez creuser, pas en nous croyant sur parole, mais peut-être du coup en allant
réfléchir
multiplier les sources, en allant voir d'autres contenus. Nous avec Justine, on partage énormément de contenus, typiquement les tiens Mathieu, parce que souvent
ils sont. Ce qui m'a énormément aidé, moi par exemple.
Bah, avec plaisir, mais parce que souvent ils sont complémentaires, justement parce que tu vas apporter. Des sources, une expertise et quelque chose que nous on n'a pas forcément amené par manque de temps parce que sur un réel d'une minute trente on veut être impactante et du coup,
mais nous on veut être impactante avec l'humour donc aussi, du coup on a juste deux manières aussi différentes aussi. De fonctionner.
Mais du coup voilà, quand vous écoutez des gens que vous aimez, là je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices, ne vous dites pas ah bah là on est en désaccord, en vrai surtout si c'est sur des valeurs aussi importantes, et je fais notamment allusion à la polémique autour d'Hugo Clément parce qu'on a perdu beaucoup de gens à ce moment-là,
on a vraiment perdu 3000 abonnés.
Non mais accordez-nous du crédit, je vous en supplie, si on vous a si on vous en a parlé, c'est que ça nous a fait mal au ventre,
et après c'est pas grave de en vrai de pas être d'accord.
Non mais c'est pas ça que je veux.
Oui, mais c'est plus le ah là vous avez tort alors que jusqu'ici
voilà. Non mais c'est pour... quand je dis accordez-nous du crédit, on peut se tromper, ça nous arrive, mais là, on a creusé, et si on vous a donné cette idée-là et ces infos-là, c'est parce que c'est important et que justement, il y a des grandes conséquences. Tout le cœur de ce podcast aujourd'hui le prouve. C'est pas pour diaboliser Hugo Clément en tant qu'homme, en tant que tel, je m'en fous, en fait. C'est juste que donnez-nous un tout petit peu de crédit si vous partagez nos valeurs.
Absolument. Et pour être même très honnête sur cette polémique Hugo Clément, encore une fois, qui alimente ce podcast, c'est qu'au tout début, moi, quand je suis tombée sur l'info, sur Twitter, on me l'avait envoyé, j'ai fait... Oui, et
oui, voilà. Oui,
moi d'accord. Aussi, je voulais pas en parler.
Ah, vraiment ? J'en ai parlé. C'est pas trop grave
parce
au début.
Vous aviez commenté Enfin, j'avais commenté une de vos vidéos et il est venu me répondre.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai dit, bon, vas-y, là, il dit n'importe quoi, je vais aller lui répondre.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est la suite mais de cette histoire. C'est même pas la... Alors déjà, la démarche en tant que telle, en fait, quand tu creuses un peu, tu comprends que c'est de la merde. Mais au tout début, je me suis dit, bon, bah, il joue le jeu de ceux qui veulent aller débattre avec l'extrême droite. Mmh. Moi, je veux pas le faire, mais je comprends ceux qui le font. Je peux pas... Voilà. Et en fait, quand tu creuses, et surtout les jours et les semaines qui ont suivi avec le mec le plus borné de la Terre qui était incapable à aucun moment de relever... Collègues. Que c'était un parti raciste.
Ses propres collègues qui partagent des valeurs fondamentalement communes, etc., qui lui disaient frère, tu fais de la merde. Et il a écouté.
Il faut que tu reconnaisses que au moins si, voilà. au moins ça. Non, c'est pas un parti comme un autre. Il était là, non. Non, c'était trop. C'était trop.
Mais c'est vrai qu'en termes de soutien sur les réseaux, moi je trouve que c'est compliqué. Moi par exemple, je vois que je fais un type de contenu qui est très peu organique, on va dire, en termes de réseaux sociaux, au sens où les algorithmes m'enterrent. Il faut partir du principe que quand on met en titre de vidéo terrorisme d'extrême droite nazi ou tu vois, un attentat terroriste nazi, il y a trois mots là.
Il n'y a aucun mot que l'algorithme aime.
L'algorithme, c'est, la vidéo est enterrée.
Et quand tu écris nazi, tu mets un arrobas quand même.
Bah, après, au bout d'un moment, je peux pas mettre des arrobas dans chaque mot que je dis. Donc au début, je le faisais, après, j'ai dit j'arrête parce que moi, vu mon type de contenu, de toute façon, tout ce que je dis est un trigger.
Ouais.
Donc j'existe que par les gens qui me repartagent.
Ouais.
Et c'est que ça rend la capacité de mes vidéos à atteindre du public, mais d'une lenteur, mais d'une faiblesse. J'existe que parce que y a des comptes comme le vôtre qui vont dire « Ah, ça, c'est quand même intéressant. Ça mérite qu'on lui donne un petit coup de pouce et qu'on le mette en avant. » Et parfois, je crois que les gens, ils ne se rendent pas compte, mais à quel point on est dépendant d'eux, en fait, sur les réseaux sociaux, de leur soutien, de la force qu'ils nous donnent, etc. Et que aussi, ce truc de punition, ça, moi, je trouve un peu paradoxal. Ou quand on va dire un truc qui te déplaît, « Ah, je vais défoncer ta vidéo, je vais t'envoyer 25 messages en DM, et quand tu vas me répondre, je ne vais plus jamais te répondre, mais je vais commencer à te pourrir en commentaire. » Enfin, on met beaucoup d'énergie, les gens. On peut être en désaccord sur certains sujets. C'était ça que je voulais dire avec le capital militant, c'est qu'on n'est pas tous au même point des luttes, au même moment. On ne comprend pas tous les mêmes choses, les choses des mêmes façons. Et partez du principe que si on a le même bloc adverse en face, qui est un bloc gigantesque, d'une force terrible, et qui est un bloc qui tue, qui est l'extrême droite, mais aussi cette extrême droite qui est en train de s'étendre aujourd'hui à ce que j'appellerais l'extrême centre, la Macronie, etc., etc., à un moment donné, si on ne commence pas à soutenir un minimum nous-mêmes dans les luttes, on est mort. Hein.
On va nulle part. Et ça, on le répète assez souvent aussi, le bloc qui est en face, comme tu dis, le bloc donc, des FAF, d'extrême droite, quoi. Ils sont très puissants sur les réseaux sociaux.
Et organisés. Ils sont
archi-organisés. Nous, s'il y a bien un truc qu'on leur envie dans la vie, c'est leur organisation. Ben, hein.
En fait,
eux,
ils ont du temps.
Alors, ils sont très organisés et ils ont du temps de ouf, genre ils créent des dizaines et des dizaines de comptes, eux leur contenu il est grave mis en avant et
ils vont pousser les contenus pour les faire monter, ils vont venir sur nos comptes à nous pour nous défoncer. Moi je me suis pris des raids au début, moi c'est au début ma chaîne c'était quasiment un ratio de 90% de fachos, de néo-nazis, de menaces de mort pour 10% de gens qui passaient par là et dans les 10%, 1% qui me soutenaient. Et je me suis accroché à ce 1% là en me disant bon, ça veut dire que peut-être que ce que je fais ça peut intéresser les gens. Aujourd'hui ça a un peu changé, mais j'avais des gens avec des photos de profil, c'était des nazis.
Ouais.
Et qui venaient me dire des trucs mais horribles quoi. Nous aimons la mort plus que vous aimez la vie. J'ai eu un raid une fois de gens qui avaient pris ma photo à moi, mais une photo de Facebook d'avant, ils étaient allés chercher je sais pas où, ils avaient tous pris ma photo, ils l'avaient mis comme photo de profil à eux, et ils m'écrivaient des messages en m'écrivant à bientôt, on va te retrouver, on sait où t'habites. Et quand t'as plein de messages comme ça avec quelqu'un qui a ta tête, et toi t'es tout seul chez toi, faut se rendre compte les gens, parce que t'as peut-être 20 000 abonnés sur les réseaux, t'es toujours tout seul dans ta maison. T'as aucun soutien, t'as aucun parti politique derrière toi, il y a personne, il y a aucune organisation, aucune association, personne qui va venir t'aider. Tu tâtes à fermer ta page.
C'est pour ça qu'on le dit très très souvent, envoyez aux gens que vous aimez des cœurs, des pouces, soutenez, écrivez en commentaire.
Ouais,
parce qu'en fait, eux, ils ont une grosse force de frappe et on sait que c'est pas eux les plus nombreux. Nous aussi, c'est pareil, on n'est pas suivis majoritairement par des faf, mais n'empêche qu'il y en a et qu'ils ont une grosse force de frappe. Donc c'est vraiment important de partager, de soutenir les contenus que vous aimez bien. Et les gens que vous aimez bien, et plutôt que venir nous embrouiller sur le sujet où on n'est pas forcément d'accord, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord partout.
Sur ça, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est juste que j'ai pensé à un truc, je me suis dit, comprendre qu'un militant politique, c'est pas un influenceur. Parce que les gens, en fait, ils sont ultra méfiants aussi parce qu'ils sont habitués aux influenceurs de réseau qui ont des trucs à vendre, qui sont en mode, je pense aux gens de la télé-réalité, etc., sans les pourrir. Hein. Moi, je veux dire, ils font leur métier et tout. Mais c'est sûr qu'il y a une logique différente, marchande, etc. Et donc, il y a un lien de confiance. Et je ne dis pas qu'un militant politique ne peut pas vendre quelque chose ou quoi. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien de confiance envers nous qui est un petit peu le même que celui qu'on s'est habitué à avoir avec absolument tout le monde. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, mais en fait, ce qu'on gagne en militantisme, c'est vrai qu'on y gagne un peu. Moi, je vends quelques bouquins, ça me médiatise un petit peu. Enfin, mes bouquins, j'en vis pas du tout. Hein. J'ai gagné 2000 balles avec, tu vois. Mais c'est mieux que rien. Mm-hmm. Mais ce qu'on y gagne, ça ne vaut rien en comparatif du travail gratuit que tu vas donner, du temps énorme qui va être passé, ne serait-ce qu'à gérer le flux des messages des gens, etc. Et je parle même pas de la pression psychologique que c'est d'être menacé de mort quotidiennement. Mmh. C'est pas du
et
tout
de bagarre,
un jeu.
Du coup.
Voilà, et défier à la bagarre, etc.
c'est
très compliqué, quoi. Et ouais. je crois que les gens, parfois, ils se rendent pas compte. Moi, j'ai eu des messages de gens, tu vois, qui étaient déçus parce qu'une fois, j'avais dit un truc qui leur plaisait pas et qui me disaient, de toute façon, toi, tu fais ça pour vendre tes livres. Oh. Et j'étais là.
Mais c'est ça que je veux dire. C'est que si vous êtes un peu de notre côté, fondamentalement, on peut être en désaccord sur certains sujets et c'est pas grave, continuons à avancer. Mais après tout, nous, on vous a juste donné notre point de vue. Vous pouvez continuer à faire évoluer votre point de vue avec d'autres contenus. Mais par contre, venir nous embrouiller ou nous envoyer du négatif, alors que de base, vous êtes censé un peu nous aimer, un peu nous soutenir, bah dites-vous qu'en fait, vous rajoutez du négatif sur des kilos de merde.
Exactement.
Où on se fait pourrir. Donc voilà, c'est juste prenez aussi cette conscience-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en contradiction. On a le droit et nous, on les lit, vos messages où vous êtes en contradiction avec nous. Vous inquiétez pas, on le voit, on les lit et des fois même on le sait. Mais prenons aussi la mesure de si vous voulez nous faire du bien, bah ça nous en fait pas. En fait, ouais, c'est ça que
Oui, effectivement, juste venir pointer le ah du coup vous faites du placement de produit par rapport à tout ce que vous dites, c'est pas logique. T'es là, tu vois pour
mais
prendre le temps de
fait.
Dire tout
je
ce qu'on dit.
Pas de l'air.
Voilà,
ça. Oui, ça nous permet de faire
mon
le
loyer
reste,
n'est pas gratuit et encore moins à Paris, les amis.
Exactement. Ouais.
Ça fait déjà une heure qu'on papote, donc on va skipper les bols à questions, parce qu'on n'en a pas eu besoin, parce que vraiment, en fait, on avait besoin de faire un épisode spécial extrême droite.
Je crois que là, il y avait des choses à dire.
On n'a pas fait le tour, mais en vrai, je crois que c'était important.
Ouais.
Nous, ça nous démangeait aussi. Donc
oui,
je suis
et particulièrement en
fait.
En ce moment, très sincèrement, en ce moment, il y a un climat...
Ouais.
Enfin, ça fait un moment, hein, on le sait, on la voit, la montée, l'extrême droite et tout, il n'y a pas de souci. Là, en ce moment, je trouve vraiment, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a un climat.
Mais tu sais pourquoi
nous, ça se voit sur nos réseaux.
Mais c'est, en vrai, c'est parce que la polémique Hugo Clément, et après on ferme la parenthèse là-dessus, mais a déclenché
alimenté
des tonnes de messages qu'on a reçus de arrêter de diaboliser les électeurs, arrêter de les mépriser, arrêter de les prendre pour des cons, arrêter. Et en fait, c'est très bizarre et du coup c'est pour ça que je pense que cet épisode nous fait du bien aussi parce que en fait on veut pas arrêter parce que c'est diabolique et il faut diaboliser ça et donc on maintient et c'est pas du mépris de classe. Voilà, comme beaucoup de gens aiment.
C'est un mensonge aussi d'ailleurs. C'est pas les classes populaires qui votent à l'extrême droite. Ça aussi, c'est un stéréotype. Regardez l'électorat de Zemmour. C'est des classes bourgeoises. Regardez qui était dans le parti de Zemmour. C'était que des petits bourges parisiens. Je veux dire, excusez-moi, c'est à nouveau un stéréotype à défaire. C'est pas du classisme de dire que l'extrême droite ça pue.
Voilà,
c'est
l'inverse. Mais c'est pour ça, mine de rien, cette polémique, elle a aussi remis ça sur le devant de la scène. Et nous, on s'est mangé tellement de commentaires comme ça que presque on s'est remis en question aussi. Tu vois, on avait ce truc de. Mais
finalement,
est-ce
qu'elle n'aurait pas raison, Marine Le Pen?
Non, mais est-ce que eux, ils ont raison? Mais est-ce que nous, on les méprise?
Ah bah attends, moi j'ai eu un doute de temps en temps avec tous les retours qu'on se prenait. Je me disais,
ça nous a fait douter. Donc c'est important d'avoir remis l'Église au centre du.
Ah oui, évidemment.
L'église. Et si on parlait de religion maintenant, je rigole.
Allez, hop, c'est parti, on repart sur une heure. Non, mais le climat est très, très compliqué en ce moment sur les réseaux sociaux.
Ça fait du bien d'entendre
des chiffres. Les gars, il y a une manif néo-nazie qui se passe sans encombre dans le cœur de Paris.
Non, ils ont dit officiellement, ça a été dit officiellement, ça n'est pas un problème. On n'avait aucune raison de l'interdire.
Mais les gars.
Je rappelle que la croix nimbée, donc la croix qu'ils avaient sur leur drapeau, c'était un des symboles du régime de Vichy. C'était un des symboles de la France collaborationniste avec les nazis et qu'ils ont fait cette manifestation la veille de la date de la libération de Paris. Enfin, à un moment donné...
Oui, mais ça posait aucun problème,
c'est quand même un symbole hyper fort. C'est dire, regardez, nous, on est la France de la collaboration, on est la France du nazisme. face à la libération qui va avoir lieu le lendemain. C'est, moi, je trouve ça mais terrible.
C'est incroyable que ce
soit les gars, ils marchaient cagoulés avec des gants, des gants coquilles, normal. Ce qui est illégal.
Mais c'est là où c'est bon. On a, en fait, si à un moment il faut la preuve par A plus B que le gouvernement en place protège l'extrême droite, voici une preuve supplémentaire parmi celles qu'on avait déjà, mais cette preuve, elle est difficilement réfutable. En tout cas, je
nous, on fout un pied en manif là depuis plusieurs semaines.
On se fait gazer
avec ta casserole. T'es là, t'es en direct. Attention, une casserole.
Ça, n'importe qui dans la rue là qui achète une Tefal peut se faire arrêter par les keufs.
Techniquement, maintenant, c'est un matériel sonore. Je sais plus c'est quoi l'argument. Trouble à l'ordre public.
Et en plus, voilà le son que ça fait. En plus, enfin, c'est un peu ridicule le petit son que ça fait. Quoi. Mais bon, vous êtes vraiment fragiles.
C'est quand même une dérive autoritaire très inquiétante. Oui, parce qu'on change quand même le sens du droit. On le tord pour interdire des choses qui déplaisent au pouvoir. C'est très inquiétant.
C'est encore tout un pan de la discussion qu'on aurait pu avoir. Mais effectivement, il y a énormément à dire. Mais en même temps, du coup, vous avez qu'à suivre Mathieu déjà sur les réseaux et dans ses vidéos parce qu'il y a beaucoup de contenu très instructif et très sourcé. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui adorent les sources et les chiffres.
Sources, chiffres.
Vous les aurez. Avant de se quitter, on va quand même faire un petit top flop.
Oui.
Ouais, ouais.
Oh là là, oh là là.
Alors, un petit top flop, culture. Donc, quelque chose que tu as vu, lu, entendu et que tu as aimé ou pas aimé. Parce que nous, on aimera aller aussi. Donc,
Deux sont possibles.
Les deux sont possibles. On peut commencer si tu veux du temps pour réfléchir.
Ouais,
ou si
c'est carrément, je veux du temps pour réfléchir.
Moi, je commence, je vous recommande une BD. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu. Vu que ça fait des mois que je lis Nana, là, j'en peux plus. Enfin, j'adore Nana, mais bon, bref. Donc, une BD qui s'appelle Gender Flou de Tamos Le Thermos, qui est illustratrice, que j'avais donc découvert sur les réseaux sociaux. Et j'adorais ces BD qui sont tout le temps un peu gaulerie et mignonne, vraiment j'adore. Et je me suis procuré la BD qui est trop bien et j'ai appris plein de trucs sur la non-binarité, tout simplement. Vraiment, voilà, je vous recommande à fond. Je ne sais pas faire de critique autre.
Bah,
que
ça raconte,
c'est trop bien.
En gros, ça raconte
le parcours de cette personne qui est une personne non-binaire et qui fait son coming out, qui se rend compte qu'elle ne se reconnaît ni dans un genre ni dans l'autre. C'est vraiment tout le parcours de découverte de non-binarité de cette personne avec ses amis, sa famille.
Et c'est autobiographique complètement.
Oui, voilà. Oui,
et
si je suppose.
Oui, parce que si vous la suivez cette personne sur Instagram, c'est aussi ça, tout son compte qui regorge.
Tout à fait.
De,
je vous recommande aussi
post.
Son compte Instagram que j'adore.
C'est Tamos Le Thermos.
Tout à fait.
Qui est trop bien.
Moi, je vais vous conseiller quelque chose que Tani avait déjà conseillé dans un épisode, mais du coup, comme j'y suis allée, eh bien, je déteste dire ça. Je déteste, mais je l'ai fait quand même.
Bah, si, c'est bien.
C'est l'expo de Zanele Muoli qui est à la MEP, à la Maison Européenne de la Photo à Paris. Et c'est donc une expo d'une personne, elle est aussi non-binaire, Zanele Muoli. Et c'est une expo avec toutes ces photos qui sont à la fois très engagées dans un militantisme queer, donc avec beaucoup de personnes queer, beaucoup de drag, de drag queen, pardon, parce que de drag, il y a des gens qui se draguent comme ça. Non.
Ah oui, j'ai compris la drag.
L'art du drag, mais beaucoup de personnes non-binaires, beaucoup de personnes
quand
queer.
Quand tu vas à l'expo, tu peux tomber sur un dragueur, une dragueuse, vous draguer. Quoi.
C'est vraiment super.
Ouais, c'est génial.
Non, elle a photographié des drag queens, des choses comme ça. Donc, et beaucoup de gens, vraiment un peu les gens, des personnes queer, des personnes racisées. Il y a beaucoup de portraits, c'est très beau. Mais particulièrement, ce que j'ai adoré, c'est toute la partie où elle fait des autoportraits. C'est sublime, vraiment. Elle a la peau très noire qui rend très très bien en photo. Et elle se met en scène avec des objets pour dénoncer à chaque fois des choses. Donc, lire les légendes. C'est trop cool parce que tu vois à chaque fois ce que la photo dénonce. Ça peut être des choses très matérielles, des idées beaucoup plus larges, etc. Et c'est elle est sud-africaine. Donc ça parle aussi évidemment, ça transporte aussi toute l'histoire sud-africaine et l'apartheid. Et à la fin, il y a une frise historique et je ne me rappelais pas à quel point c'est très récent et comment ça a duré longtemps. La ségrégation là-bas, on est sûr, ça s'est terminé il y a 40 ans. Quoi. Enfin, vraiment, c'est une sacrée histoire. Et du coup, j'ai vraiment trop kiffé alors que je suis... pas du tout cliente des musées, des expos.
Ça ne va jamais voir d'expos. Je n'y vais choquée cette information.
Non, mais je n'y vais jamais.
Moi non plus.
Je m'ennuie dans les musées. Enfin, je j'aime pas trop. Je perds ma vitalité et tout. Et là, du coup, j'ai vraiment grave kiffé. Donc, je vous encourage à y aller. Et également, si vous avez envie d'un peu de légèreté, je fais que des recos que j'ai volés à d'autres gens, mais c'est pas grave, parce que comme ça, quand vous l'entendez deux fois, ça vous donne envie. En ce moment, je rôde sur Netflix. Je me fais. Justine avait conseillé Next in Fashion, qui était donc une émission.
J'ai tout regardé.
Une émission de stylisme où c'est anglais ou américain ? C'est anglais peut-être ou américain ?
Je sais pas du tout. Je crois que c'est
parce
pas
que
le présentateur
lui, il
est
british.
Oui, le présentateur
est british, c'est sûr. Et du coup,
en tout cas, c'est anglais ou américain, mais enfin, c'est américain, mais de toute façon, il y a des gens de tous horizons,
oui.
Notamment dans la saison 1. Et donc, c'est les futurs stylistes qui doivent faire des créations. Et en vrai, j'avais besoin en ce moment de regarder des contenus léger, mais pas j'en suis pas non plus au stade de regarder la télé-réalité, enfin les Marseillais. Je juge pas ça, mais je sais que quand des gens veulent poser leur cerveau, ils vont aller regarder ça. Moi, ça me parle pas, et surtout ça m'énerve beaucoup trop, alors que là j'avais besoin d'un, voilà, je voulais un contenu un peu,
et
mais qui soit quand même légèrement addictif.
Les créations sont quand même super belles,
déjà c'est très beau, et il y a quand même la petite touche addictive parce que tu veux savoir qui va gagner. Donc, du coup ça me plaît, et donc j'ai évidemment vu les deux saisons en 2 secondes et demie.
Ah, t'as regardé les deux saisons d'un coup, mais la une elle est mieux, hein.
J'ai tellement tout vu que j'ai basculé sur Glow Up, qui est
un
peu l'équivalent, mais sur les maquillages.
Mais j'ai moins accroché.
Alors, je la trouve beaucoup moins accrocheuse, la présentation, les juges et tout, je trouve ça beaucoup moins accrocheur, mais il y a quand même le côté make-up, c'est quand même stylé, et le petit côté concours, et j'en suis à la saison 3. Allez, voilà.
T'as commencé il y a 3 jours.
Oui, c'est abusé. Voilà, mais ça, c'est si vous, tu sais, ça permet de pas trop réfléchir, mais quand même, c'est quand même bien foutu, c'est pas débile, quoi. Enfin, j'ai rien contre les contenus débiles, mais enfin, ça m'intéresse pas plus.
T'es pas fan
de débilité. Moi, je suis pas fan de débilité, et du coup, là, j'ai le petit juste milieu, et je trouve ça plutôt cool.
Ouais.
Vu qu'on a besoin d'un peu de soleil en ce moment. Et toi, Mathieu ?
Alors moi, ce que je recommande, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment, là, que j'ai quasiment terminé, qui s'appelle Les Chants du placard, de Luz Volkmann. Je pense que je le dis à peu près bien.
Les chants comme chansons ?
Ouais, comme les chants comme chansons du placard. Qui est du coup une écrivaine et poétesse trans de la région marseillaise, et qui a écrit un livre, enfin ce livre-là, qui est complètement extraordinaire, qui parle de plein de choses, qui parle de la famille, qui parle de la transition, mais surtout aussi beaucoup d'une histoire d'amitié, d'amour, d'un rapport aussi au territoire. Enfin, c'est vraiment un livre assez incroyable, très petit, très court, mais qui aborde une tonne de sujets avec une écriture, mais qui est stupéfiante. Quoi.
C'est
vraiment
un roman ?
C'est pas vraiment un roman. Alors, c'est pour ça que j'ai...
C'est de la poésie ?
C'est un entre-deux. Mmh. C'est vraiment c'est un récit, mais qui a écrit avec une manière d'écrire qui
mais
est
son
très, très particulière.
Non,
qui est, si oui, qui est, je pense, biographique. Et cette écriture, elle est vraiment très spécifique. Parfois, un peu dure, je préfère prévenir. Mmh. Mais ça reste un roman très... Enfin, un livre très, très facile à lire, quand même, et qui se lit très vite. Mais il faut y aller, quoi. Il faut rentrer dedans, il faut s'accrocher au texte. Mais par contre, c'est beau, quoi. Il y a vraiment des moments... Et c'est beau d'une manière qui n'est pas intellectuelle. Moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. C'est les livres qui viennent parler droit au ventre et qui m'a beaucoup accroché comme ça pour ça. Et donc vraiment, c'est une lecture que je recommande énormément.
Trop cool. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous voir et discuter avec nous et même nous apprendre plein de choses aussi.
Ouais, c'était trop sympa. Tu vas repartir de Paris et de la grisaille, la chance. Et nous, on va rester dans notre pluie.
Ouais. Pour, non, le suivre, cool pour le suivre, c'est Mathieu Burgalassi sur Instagram.
Voilà,
et TikTok. Abonnez-vous. Et comme ça, vous apprendrez plein de choses et ça fera du bien à tout le monde. Allez, voilà.
Ciao.
À très bientôt. Merci.
Merci.
Bye.
Merci beaucoup.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.